Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste, et c'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie, comme pratiquement tous les mercredis matin de 9h30 à 10h30. Bonjour, vous pouvez nous appeler pendant les plages musicales et pendant les diffusions de bandes de son au 01 43 71 89 40, 01 43 71 89 40. On peut aussi nous écrire à l'émission L'Entonnoir, 145 rue Amelot, à la librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, 75 011 Paris. Alors aujourd'hui, au sommaire de l'émission, deux infos brèves suivies d'une rediffusion, enfin d'une première diffusion ici, mais d'une reprise en tout cas d'une émission qui sévit sur Radio Canu, une radio lyonnaise, radio libre, une émission qui s'appelle Interlope. Une émission transpédéguine et féministe pour et par les intrus. Et il est question, et bien évidemment, ici, de psychiatrie et de critique de la psychiatrie, et même d'anti-psychiatrie. Donc on va écouter pendant une cinquantaine de minutes cette émission qui date de l'année dernière, du 24 janvier 2022. Ce son constituera la partie essentielle de l'émission d'aujourd'hui. En attendant, de l'actualité, avec plus de 7600 parties civiles pour une audience hors norme. Le procès en appel du médiateur s'est ouvert. Donc voilà, ça c'était sur France Inter. Et c'est une dépêche de l'AFP. Donc AFP Thomas Sanson est revu par Charlotte Piret, publié le 9 janvier 2023. Alors, le procès en appel des laboratoires Servier s'est ouvert ce lundi pour 6 mois devant la Cour d'appel de Paris. 7653 personnes se sont constituées partie civile. Une centaine de victimes, anciens consommateurs du Mediator ou proches de personnes décédées, ont fait le déplacement pour ce premier jour, mais elles sont 7653 victimes à s'être constituées partie civile, un chiffre caractéristique de ce procès hors norme, souligne d'ailleurs le président, qui s'est donc exceptionnellement affranchi au risque d'y passer des heures et des heures de l'appel des parties civiles habituel en début de procès. À la place, le président invite les avocats à confirmer le nombre de victimes qu'il représente. Maître Jean-Christophe Coubry, 3324 parties civiles. Maître Charles-Joseph Houdin, 1134 parties civiles. Maître Didier Jaubert, 478. 300 avocats sont ainsi constitués dans ce dossier. Et pour chacun ou presque, l'annonce de nouveaux décès depuis le procès de première instance il y a 2 ans. Et même une personne qui risque de décéder en cours d'audience déplore son avocat. Alors, la communauté des victimes du médiateur espère à minima voir la condamnation des laboratoires confirmée à l'issue de ce procès en appel. La montagne qui a accouché d'une souris. En première instance, les laboratoires avaient été condamnés à 2,7 millions d'euros d'amende quand le parquet en avait requis 10 millions. C'est la montagne qui a accouché d'une souris, déplore la pneumologue lanceuse d'alerte Irène Frachon. Les parties civiles espèrent donc beaucoup de ce procès en appel au cours duquel le géant pharmaceutique devra à nouveau répondre de tromperies aggravées, homicides involontaires et escroqueries pour avoir caché plus de 30 ans durant le caractère anorexigène, c'est-à-dire de coupe-faim, de ce médicament officiellement vendu et remboursé par la Sécurité sociale comme un traitement du diabète, jusqu'à ce que la Caisse primaire d'assurance maladie ne révèle le premier chiffre effarant de 500 morts et près de 5000 malformations cardiaques parmi les consommateurs du Mediator. Épilogue d'un très long processus judiciaire. Car lorsqu'en novembre 2009, que le Mediator est retiré du marché du médicament, cela fait déjà des années que la pneumologue Irène Frachon se bat pour faire reconnaître les dangers de ce médicament conçu comme un traitement du diabète mais très largement prescrit comme coupe-faim et délivré à 5 millions de personnes sur les 33 ans de sa commercialisation. La médecin au CHU de Brest a repéré dans le médiateur des effets qu'elle connaît déjà pour avoir travaillé des années auparavant lorsqu'elle était encore une jeune interne sur les dégâts d'un autre médicament lui aussi commercialisé par les laboratoires Servier, l'isoméride. Alors, mois après mois, elle s'est transformée en enquêteur face à un puzzle disséminé, racontait-elle en 2019 lors du procès de première instance à Paris. Pour démontrer le poison puissant, mortel, qu'est la norfenfluramine, le principe actif du Mediator. En 2008, elle lance une première alerte sur les risques cardiaques que peut engendrer une prise de Mediator. De nombreux autres suivront jusqu'à ce que la justice s'en saisisse. En 2013, un premier procès s'ouvre devant le tribunal correctionnel de Nanterre et en la présence de Jacques Servier, patron des laboratoires du même nom qui a commercialisé le Mediator, remboursé à 65% par la Sécurité sociale. Car une autre instruction est en cours à Paris. Les deux procédures seront finalement jointes et déboucheront sur un premier procès fleuve de septembre à mai 2019. Cette nouvelle audience est prévue pour durer jusqu'en juin 2023. Mais il faudra encore attendre plusieurs mois avant le rendu de la décision, fin probable de cette affaire Mediator. Voilà, donc depuis la première alerte sur les risques cardiaques que peut engendrer une prise de Mediator, il s'est produit 15 ans. C'est passé 15 ans. Voilà. Donc, les laboratoires Servier, multinationales du médicament. Eh bien, avec l'État, qui sont un peu comme ça, comme une coalition, qui forment un peu une coalition, pour des gros sous, s'en fiche pas mal de la santé des personnes. Et espérons que ce procès en appel aboutira à autre chose qu'une montagne qui a accouché d'une souris. Voilà. On a le temps. Non, voilà. Eh ben, on va passer tout de suite à cette émission Interlope, une émission qui va parler d'antipsychiatrie, de psychiatrie, une émission transpédéguine et féministe et faite par et pour les intrus, un vendredi sur deux de 18h à 19h en alternance avec Lilith, Martine et les autres, l'émission féministe de Radio Canut. Et donc c'est à Lyon. L'émission est réalisée par des transpédéguines en un seul mot, car il s'agit d'un concept et pas d'une énumération de nos identités. Écrivent-elles, dit-elles, ni LGBT qui manque de politique, ni queer qui est un mot récupérable et récupéré par le capitalisme, des mouvements mainstream et institutionnels, car il ne veut rien dire en français. Interlope, ça veut dire qui est d'aspect équivoque, dont l'honnêteté ou l'honorabilité sont douteuses. On dit par exemple le commerce interlope, ça veut dire le commerce frauduleux, le trafic ou alors le milieu interlope, c'est les bars clandestins, c'est un adjectif qui veut dire qui est suspect de mauvaise apparence. Interlope sera ce que nous, vous voudrez en faire. Donc là, il s'agissait de la première émission, l'introduction à la première émission de décembre-janvier 2021-2022. Eh bien, on va écouter tout de suite cette émission sur de Radio Canus sur Radio Libertaire. Avec...
On s'est dit que ça serait et on n'a pas pu faire une énumération de toutes les identités possibles. Du coup, on a choisi TPG.
Attendez, je vais un petit peu avancer le.
Parce que c'est un mouvement politique radical et féministe. Et du coup, on n'a pas choisi le mot queer parce que c'est un mot qui appartient à l'histoire. Du coup, on a choisi.
Oui.
Interview portable pour une première émission de diffuser voilà. Des sons que de parler, c'est un petit peu stressant et tout ça. Donc voilà, on commence doucement. Du coup, le premier thème qu'on a choisi, c'est les luttes anti-psy et les luttes LGBTIQ. Comment elles sont liées? Et du coup, on va, si on suit un peu ce qu'on s'est dit au départ, on va en parler pendant deux émissions. Ou même plus, parce qu'on s'est rendu compte en la préparant qu'on avait beaucoup de choses à dire sur le sujet. Alors pour cette première émission, on a interviewé Camille, qui est concernée par le sujet, qui va nous raconter un petit peu l'histoire des luttes. Mais est-ce que je ne suis pas en train de prendre ta partie? Alors voilà, je vais laisser mes collègues continuer. Et, alors c'est ça. On commence avec une blague.
Alors, la blague. Monsieur et Madame Levalli donnent un fils. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Nick.
Nick? Ah. Nick Levalli?
Exactement.
Ok. Alors, pour vous présenter un peu l'interview qu'on va passer, du coup, pour cette première émission... On a le plaisir de recevoir notre invitée qui s'appelle Camille et qui est plus connue sous le pseudo Twitter Mad Freaks Pride. En français, ça veut dire fierté des monstres, des bêtes curieuses, fous et folles. Camille est une survivante de la psychiatrie qui vit encore aujourd'hui les conséquences de sa psychiatrisation. Elle se définit comme anarchiste et post-structuraliste. Dans cette interview par téléphone, elle va nous parler de l'antipsychiatrie en tant que mouvement politique, puis des ponts faits ou à faire entre la cause antipsychiatrique et antivalidiste et les luttes LGBTI.
Pour parler d'antipsychiatrie, il faudrait déjà qu'on parle de psychiatrie tout court. Et qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, de la psychiatrie? Comment tu l'abordes et comment tu la définis?
Moi, je reste assez proche de ce que disait, par exemple, Michel Foucault, hein, pour prendre quelqu'un d'assez connu. Que c'est une institution qui est toute récente, hein. Faut bien se rendre compte que c'est très récent, la psychiatrie. Ça date de même pas deux siècles, quoi. Et ça a été créé dans le cadre de l'État moderne pour exercer un pouvoir sur les corps qui portent sur des enjeux sociaux, mais qui se légitimisent par la médicalisation, quoi. Ce côté de la légitimité symbolique qui permet que ce soit le fait des médecins, quoi. C'est-à-dire des médecins qui parlent de situations sociales, qui sont là pour dans le cadre d'une idéologie politique. Mais vu que c'est pour la science, vu que c'est du médical, ça se légitimise par là, quoi. Quand bien même peuvent porter sur des choses très absurdes. Bon, déjà, l'exemple connu de l'époque, qui était très utilisé par Foucault lui-même, c'est bien sûr l'hystérie. C'était vraiment n'importe quoi, quoi. C'est vraiment des bêtises pour contrôler les femmes, quoi. Et notamment, je pense que l'enjeu, c'est de dire que c'est le problème de fond qu'il y a avec la psychiatrie, qu'elle est là pour médicaliser des déviances sociales.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'origine du mouvement de l'antipsychiatrie et de ses principes ?
À la base, le terme antipsy, c'est un terme de psychiatre hétérodoxe, on va dire. Mm-hmm. Ça, faut garder à l'esprit.
Hétérodoxe vient du grec hétéro, qui signifie autre, différent, et de doxa, qui signifie opinion commune. Être hétérodoxe, ça veut donc dire qu'on se positionne contre l'opinion commune ou ce qui est admis comme vérité générale.
Alors après, ça peut être pour différentes raisons, parce qu'il y a des psychiatres de gauche, il y a des psychiatres libéraux aussi. Je pense à Thomas Schach, je crois que c'est comme ça qu'on prononce son nom, qui était en l'occurrence un antipsy libertarien, quoi. Donc derrière l'idée que la psychiatrie est un organe de l'État, parce qu'évidemment c'est un libertarien, c'est tout ça son problème, c'est que la psychiatrie c'est l'État. Mais après derrière c'est évidemment les lois du marché pour se soigner, tout ça. Donc bref, hein, déjà pour dire qu'il y a plusieurs courants déjà, même quand on parle que de l'antipsy, point de vue psychiatre hétérodoxe. Et ce qui se passe après, c'est que à partir des années 60-70, il y a des mouvements de patients qui idéologiquement vont avoir leur spécificité, qui vont reprendre un peu des thèses de psychiatres, mais surtout qui vont pas se dire antipsy à l'époque. Pourquoi ? Parce que antipsychiatrie, c'était un terme de psychiatre à la base. Et les mouvements de patients voulaient tellement s'écarter des psychiatres qu'ils avaient tendance à refuser de même en prendre le nom à l'époque. Quand on dit que ces mouvements sont antipsychiatriques, c'est rétrospectivement, en fait. Et des camarades qui sont un peu sur le terrain me rapportent, c'est que maintenant, c'est un peu embêtant que, finalement, aujourd'hui, le terme antipsy ne soit pas affilié aux patients, au final.
Et quels étaient les principes revendiqués, les buts politiques de l'antipsy des patients, à l'époque ?
C'était que la psychiatrie, elle n'est pas équivalente à la médecine, à ce qu'on pourrait appeler la médecine somatique. C'est-à-dire que les catégorisations psychiatriques, elles sont fondées sur du social. La psychiatrie, elle ne peut pas vraiment faire mieux. Elle essaie de faire mieux, mais elle n'y arrive pas. Ça, c'est d'ailleurs assez amusant. Mais la psychiatrie, elle ne peut pas vraiment faire mieux que l'interprétation de symptômes qui sont des productions sociales, en fait. Ça fait que la psychiatrie se retrouve de fait à être du contrôle social, quoi.
Quel est l'intérêt des institutions, de l'État, de médicaliser, de psychiatriser? Quel est l'intérêt pour l'État et quelles sont les répercussions pour les gens?
Ça rejoint des analyses qu'on peut trouver du côté de marxisme, et pas que de son marxisme d'ailleurs, mais qu'on peut retrouver sur le néolibéralisme. C'est-à-dire que l'idée, c'est notamment de faire des bons éléments pour le marché de l'emploi, pour le travail, y compris en dehors de la sphère du travail elle-même, quoi. Ça, c'est quelque chose dont parle, par exemple, un antipsy marxiste qui s'appelle Bruce M.Z. Cohen, qui parle du fait que les catégorisations psychiatriques sont faites notamment pour cadrer les déviances qui sont par rapport à, notamment aux conceptions capitalistes du travail. Et donc, faut faire quelqu'un qui a peu de failles, même dans sa personne même, quoi. Même si ça n'a pas de rapport avec son travail, avec son emploi. Et pour faire des gens très heureux sur le plan affectif, sur le plan émotionnel, de travailler pour son patron, ce genre de choses. C'est-à-dire que le but, c'est que vraiment d'effacer mais toute trace de signes pathologiques entre guillemets chez les fous, quoi. Au point que même on impose des contraintes aux fous pour qu'ils paraissent plus valides que les valides, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes qui sont imposées, mais que même les gens qui sont pas fous n'appliquent pas dans leur vie, quoi.
Oui.
Moi, franchement, j'ai déjà vu des trucs, mais c'est vraiment ridicule, quoi. Genre, par exemple, des trucs sur l'équilibre alimentaire. Chez nous, là, mais l'équilibre alimentaire, ça doit être parfait, quoi. Vraiment, à chaque repas, hyper bien cadré. Mais personne fait ça. Tout le monde a un peu de souplesse sur ça, quoi. L'enfermement, ça suffit pas pour faire ce contrôle sur la vie des gens, quoi. Le cadre de vie que tu vas contrôler sera entre quatre murs. Et c'est pas suffisant, en fait. C'est pas suffisant pour bien soigner les gens, pour faire attention qu'une schizophrénie ne se développe pas. Ce que les psychiatres veulent faire, c'est que pour soigner les gens, il faut commencer même à faire du contrôle vraiment plus sur leur vie, notamment dans leur logement, même leur logement ordinaire, quoi. Les logements protégés, ça suffira plus. Et les soins ambulatoires, ce genre de choses, ça s'inscrit dans ce cadre-là, quoi. Faut sortir le soin psy. Donc le soin, quand je dis le soin, c'est entre guillemets, hein, bien sûr. Le soin psy hors des murs de l'HP. C'est tout ça l'enjeu, quoi. Comme ça, après, ce contrôle devient d'autant plus efficace. Faut bien formater les gens selon des normes qui relèvent de plusieurs axes de domination différents, quoi.
Tu parlais du soin psy, entre guillemets, comme si ce n'était pas du soin. Est-ce que tu pourrais nous résumer rapidement en quoi le soin est politique, finalement ?
Le soin, quoi qu'il arrive, c'est un rapport de pouvoir. Parce qu'il y a une personne qui soigne, il y a une personne qui est soignée. Et il y a une légitimité symbolique du fait qu'il y a une personne qui est l'ascendant sur l'autre. Parce que, notamment, la légitimité symbolique à laquelle on pense, c'est la compétence, quoi. Il y a une personne qui est compétente pour soigner l'autre et l'autre est supposée pas assez compétente pour avoir des notions de ça. Et ça, évidemment, la psychiatrie, évidemment... En quoi ça se traduit, c'est bien sûr le fait que les soins sont beaucoup, en grande partie, non consentis. C'est-à-dire qu'on décide à la place de la personne. Et c'est un des gros problèmes de fond, quoi, le fait qu'on conçoit que des soins se fassent sans le consentement des personnes, quoi. Et après, quand on parle de consentement, il faut voir comment c'est réalisé concrètement, hein. C'est-à-dire, en psychiatrie, il y a beaucoup de choses où les soignants et les psys peuvent se défendre en disant comme quoi ils font des choses qui doivent être consenties, mais concrètement ce qui se passe, je l'ai vu et je l'ai vécu, c'est qu'en gros on assiste envers toi pour que tu consentes quelque chose, tu finis par lâcher, ne plus rien dire parce que t'en as assez de refuser, et puis hop, c'est compris comme du consentement, quoi. Et t'as consenti, quoi. Céder, c'est consentir dans le cadre psychiatrique très souvent.
Du coup, face à tout ça, face à cette institution qu'on peut dire à la fois carcérale, judiciaire, médicale, quelles sont les solutions et les alternatives qui ont été soutenues et proposées par les militants et militantes anti-psy ?
Du côté des patients, on peut parler par exemple de l'anti-psy française, où l'organisation la plus connue, c'était le groupe à formation Asile. Le GIA. qui a été fondée par analogie au groupe d'information prison, qui lui est connu parce qu'il y avait Michel Foucault notamment derrière.
C'était donc, du coup dans les années 70.
Ouais. Le JA était finalement, c'est drôle à dire parce que comme c'est des marxistes, mais finalement était plutôt réformiste au final. C'est-à-dire que le JA avait pour fonction, pour but de fonctionner un peu comme une sorte de syndicat à l'intérieur des hôpitaux psy, et de créer des alliances même pragmatiques avec les soignants, parce que comme c'était des marxistes, et c'est quelque chose qu'on voit dans leur texte très connu qui est Psychiatrie, la peur change de camp, c'est que les soignants sont conçus comme des alliés potentiels. Pourquoi ? Parce que c'est des travailleurs. Voilà, après tout, c'est des marxistes. Et notamment, un des combats finalement dans lequel c'est le JA, c'était le plan légal, où ils ont obtenu certaines choses. Je pense à André Bitton, une des figures importantes du JA, qui a réussi à obtenir une jurisprudence sur le fait qu'on interdise le travail aux pécules dans les hôpitaux psy. Parce qu'avant, ça se faisait.
Mais finalement, ça a été répercuté sur les ESAT, non ? Ce système de travail aux pécules.
C'est vrai que, oui, après tout, il y a les ESAT maintenant. Donc,
Les ESAT, les établissements au service d'aide par le travail, c'est des établissements médico-sociaux dits de l'insertion, où certains handicapés travaillent pour un salaire inférieur au SMIC, ça veut dire à partir de 4,79 €.
Et par exemple, du côté de l'antipsychiatrie de pays anglophones, donc Grande-Bretagne, États-Unis, Canada, on retrouve le mouvement des Psychiatric Survivors, les survivants de la psychiatrie. Donc déjà, dans le nom, le nom est très très fort, déjà, moi, je trouve. Quoi. Notamment aux États-Unis, on retrouve le MPLF, le Mental Patient Liberation Front. Au Canada, c'est la Mental Patient Association. En Bretagne, la Mental Patient Union. Beaucoup l'idée du... Alors, Mental Patient en français, c'est compliqué à traduire. On peut traduire par psychiatriser. Enfin, pas sur mentaux, ça fait bizarre, quoi. Mais il y avait beaucoup cette idée de prendre position vraiment très clairement, rien que dans les noms des associations en tant que telles, quoi. Et là, dans ce cas-là, l'aspiration idéologique est plutôt anarchiste. Et par quoi ça se traduit ? Ça se traduisait par l'élaboration de structures en autogestion collective pour faire ce qu'ils appelaient même pas du soin, parce que même le cadre du soin, le terme de soin était rejeté, parce que comme tout à l'heure, c'est du pouvoir le soin. Donc après, ils avaient d'autres manières d'appeler ça. Aujourd'hui, des gens qui trouvent des moyens créatifs de parler de ça, on parle de répit, voilà, du répit mental, par exemple. Et donc, on va
Il existe, un lieu de répit à Marseille, il me semble.
Voilà, exactement, c'est ça que je pensais. Et donc, oui, ce répit donc, se faisait dans des structures alternatives à la psychiatrie, où on faisait de la pérédance collective et organisée.
Pérédance, du coup, c'est P-A-I-R-E. Pérédance, c'est un concept d'entraide, partage d'expérience, discute entre les personnes concernées.
Il y avait notamment des structures où... Après, elle pouvait beaucoup changer, elle était assez hétérogène. Il y avait parce que, évidemment, vu que tout ça, c'est potentiellement du rapport de pouvoir, beaucoup de questions se posaient et les choses étaient discutées, notamment démocratiquement, ça marchait par le vote. Mais alors la question c'était, est-ce qu'il y a des permanents ou pas ? Est-ce qu'on fait en sorte qu'il y ait des gens qui soient salariés là-dedans ou pas ? Comment on fait tourner les gens ? Parce que le but c'était pas que les gens restent là-dedans, c'était qu'ils viennent, qu'ils se reposent un peu et puis qu'ils repartent. En termes d'organisation, ça posait beaucoup de questions, donc elles sont assez hétérogènes. Mais en tout cas, le but commun c'était... C'était clairement qu'on ne pouvait pas changer la psychiatrie de l'intérieur, il fallait se séparer d'elle. Je veux dire, les soignants, il n'y avait pas d'alliance potentielle avec eux. Bon, s'il y en a qui rejoignaient le mouvement, c'était tant mieux, mais c'était pas conçu comme des alliés. Quoi. Les soignants, les psychiatres n'en parlons pas, c'était impossible évidemment de faire quoi que ce soit avec eux. Les soignants, les infirmiers, infirmières, aides-soignants, tout ça, c'était. Considérer que c'est des agents d'institution et que non, il n'y avait rien de spécifique à faire avec eux. Quoi. Donc voilà, on crée des lieux séparés de la psychiatrie, en pérédance, donc pas de distinction entre soignant et soigné. C'était censé être horizontal en termes de rapport de pouvoir. Aucun soin contraint. C'est-à-dire que s'il y avait de l'isolement qui existait, parce qu'il y en a où l'isolement existait, c'était volontaire. Ça, c'est important, évidemment. Enfin, ça change tout. Et c'était... Voilà, ouais, c'était, tout ça, c'était le but, quoi. C'était vraiment essayer de se séparer de la psychiatrie par les structures alternatives de père aidant, quoi. Les groupes de psychiatrisés étaient... Donc, de ce courant-là étaient analogues au groupe de conscientisation féministe. Ces gens-là étaient dans l'idée que la maladie mentale n'existait pas. Ils avaient repris cette idée... Et que, bon, pourquoi ? Parce que les maladies mentales, c'était des productions avant tout sociales, quoi. C'était surtout ça, c'était ça leur discours. Les maladies mentales étaient des productions du social, c'était des productions du capitalisme, et aussi du patriarcat, c'était des productions de la domination. Pour qu'il y ait un répit mental qui soit efficace, il faut que ce répit soit fait en... dans le cadre d'une contestation de l'ordre social. Pour qu'il y ait du bon soin, il faut qu'il soit dans un cadre politique de contestation de l'ordre social, quoi. Parce que vu que c'est l'ordre social qui produit les maladies mentales et que la psychiatrie doit faire adapter les personnes, alors contre ça, il faut contester l'ordre, quoi. C'était comme ça que les antipsies autogestionnaires le concevaient.
Bon, ces groupes de père aidants qui ont existé et qui sont un peu en fait l'alternative proposée par l'antipsychiatrie pour sortir de la domination. Souvent, quand je discute avec des gens d'antipsychiatrie ou de psychiatrie tout court, il y a tout de suite, même parmi des survivantes ou des survivants ou des personnes psychiatrisées, des personnes qui vont me répondre « Oui, mais on peut pas laisser les gens sans soins. Est-ce que vous voulez qu'ils les mener à leur perte, à leur mort ?» Tout de suite, les grands mots. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre en fait aux personnes qui soutiennent la psychiatrie parce que personnellement, elle leur a sauvé la vie?
Mais la psychiatrie se met en situation de monopole. De ce qu'on peut appeler le soin psychique, quoi. Donc forcément, c'est-à-dire que en France, c'est compliqué de faire autrement, quoi. C'est quand on va mal, c'est compliqué de faire autrement que aller voir un psy et parfois se faire interner, quoi. En fait, faut se rendre compte que l'antipsychiatrie, du moins l'antipsychiatrie actuelle, parce qu'il y a eu des changements quand même depuis les années 70, hein. L'antipsychiatrie actuelle, elle va pas dire aux gens de ne jamais aller se faire interner. Ce qu'on dit, c'est que ça doit vraiment être le tout dernier recours possible. Mais vraiment quand il y a pas autre chose à faire, quoi. Après voilà des choses qui sont organisées à une grande échelle nationale, c'est pas trop le cas, quoi. Il y a une psy qui fait un peu des choses. Et qui sont pas dans une perspective franchement anti-psy, quoi. Après, c'est toujours ça, quoi. Ils font un peu de la père aidance, il y a des groupes de père aidance.
UMAPSI est une association fondée en 2013 suite aux mobilisations contre la loi de 2011 autorisant les soins sous contrainte, même en ambulatoire. UMAPSI est pour une psychiatrie humaniste contre les soins inhumains comme la contention, l'isolement, les électrochocs, contre les humiliations subies de la part des soignants.
Mais ce qui s'est passé aussi, je pense, c'est que, bon, la critique des institutions carcérales, prison et psychiatrie notamment, ça avait un écho dans la gauche de l'époque, quoi. Ça a été complètement évacué. Je pense, fin des années 80, quoi, que ça a été évacué, quoi. Donc, tout ce qui s'était fait a un peu disparu, et vu qu'en plus, les alternatives en France, c'est surtout... Les alternatives bien connues, quoi, ont été faites par des psychiatres et que forcément ça finissait par redevenir juste la psychiatrie purement et simplement. Bon, ouais, ça fait que on a une histoire qui a été effacée, quoi. Et c'est compliqué de se réorganiser maintenant parce qu'on a un peu l'impression de repartir de zéro, quoi. Ça, c'est le côté un peu déprimant, là.
Mais comment t'expliques cet effacement d'histoire?
Je pense que d'une part, la gauche révolutionnaire à totalement abandonner ces questions-là, quoi. Je pense que même dans la gauche révolutionnaire, l'extrême gauche, tout ce champ-là, par exemple, la psychiatrie, ça fait peur, quoi. Et on retrouve les objections dont tu parlais, mais ça sauve la vie des gens. Donc on prend le compte au fait que la psychiatrie, c'est... Alors je ne suis pas assez renseigné sur ça, mais il y a des écrits sur ça. La psychiatrie, elle a fait tout un processus politique au cours de l'histoire pour se mettre dans situation de... Comme quoi c'est elle qui détient le pouvoir pour exercer ce qu'elle appelle le soin, le soin psychiatrique, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est pas venu de nulle part, tout ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un processus politique, et ce processus politique, il est complètement à penser maintenant. Et que, bon, bah, les soignants, ça reste des travailleurs, et puis les abus, alors abus qui, du point de vue antipsy, n'en sont pas. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les abus sont à l'été systémique. Mais les abus sont dus au manque de moyens, alors qu'en réalité, le manque de moyens, c'est plus compliqué. C'est sûr, ça améliore pas les choses, mais en même temps, paradoxalement, ça donne des moyens pour les soignants finalement d'acquérir un peu de pouvoir parce qu'ils ont plus le temps d'aller demander aux médecins psychiatres les mesures de coercition, donc contention, isolement qu'ils doivent faire. Donc au final, ils prennent les décisions eux-mêmes, donc ils gagnent du pouvoir, etc. Bon, c'est plus compliqué que ça, quoi. La question du manque de moyens. Maintenant, après, ce qui se passe, c'est qu'il y a des jeunes qui commencent à redécouvrir toute cette histoire-là, qui s'y intéresse, heureusement, parce que voilà, sinon c'est compliqué. Parce que c'était vraiment en train de mourir en France, quoi, l'antipsy, quoi. There was a little girl who had a little curl right in the middle of her forehead. And when she was good, she was very, very good. But when she was bad, she was all the side of hatchet, chat, scalpel, chat. One day, that little girl may find a filthy metal spike and drive it right in the middle of your forehead. For she and her friends, this is very, very good. But for you, the game is over. This is revolution! Hatchet! Shat! Scalpel! Shat! Amputation sword! Shat! It's time for war. It's time for blood. It's the tools, we've got the time to punish a most worthy crime against humanity. Somewhere it's always time for tea. We've been trained by the very best. We think you just might be impressed. Eradicate the enemy. Somewhere it's always time for revenge is the dish that is best served now. Fucking gorgeous! Hatchet! Shat! Scalpel! Shat! Electroshock!
is a dish that is best served now.
On vient d'écouter Time for Tea de Milly Houghton. C'est la musique que notre invité a choisie. On est toujours sur Radio Canus en 2.2, émission transpédiguine et féministe qui s'appelle Interlope. Et on passe à la deuxième partie de l'interview qui va parler des liens entre les luttes anti-psy et les luttes LGBTQI.
Du coup, Camille est toujours avec nous pour nous parler d'antipsychiatrie et maintenant on va essayer de parler plus des liens entre la lutte antipsychiatrique et les luttes LGBTI. Parce qu'à première vue, quand même, les deux, elles ont l'air complètement de deux questions complètement séparées, sans dialogue, alors qu'elles partagent des racines et des objectifs. Est-ce que tu peux nous parler de ces origines et de ce qui rassemble les deux causes ?
Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que les figures importantes du mouvement des survivants de la psychiatrie en Grande-Bretagne ont commencé à parler de Mad Pride au début des années 90, directement par analogie à la Gay Pride. Alors après, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que cette reprise du nom, c'était pas juste symbolique. C'est parce que les dominations exercées sur les LGBT et les fous étaient conçues comme proches, quoi. Alors non seulement bon, la psychiatrisation était quelque chose de commun, mais c'est surtout que les problèmes d'ordre mental que peuvent rencontrer les personnes sont communs, quoi. Enfin, évidemment, ce à quoi on peut penser, c'est la dépression, quoi. La dépression qui est due à la domination homophobe ou transphobe avant qu'il y ait la construction moderne de la sexualité. Voilà, l'homosexualité, c'était juste des pratiques. Et c'est justement par le biais de la psychiatrie qu'on va commencer à faire incorporer l'homosexualité. C'est pas juste quelqu'un qui fait des pratiques. Ça veut dire qu'un homosexuel est un homosexuel même dans son être, quoi. Et qu'il y a quelque chose d'ordre mental qui se joue dans l'homosexualité. Et puis la transidentité, évidemment, quoi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ça, c'est quelque chose que raconte Lilith Finkler, qui est une des personnes, une suivante de la psychiatrie au Canada. Alors, Canada, c'est important parce que c'est à Toronto qu'on a fondé ce qu'on appelait à l'époque la Psychiatric Survivors Day, Pride Day même, je crois. On disait Psychiatric Survivors Pride Day, le jour de fierté des survivants de la psychiatrie. Qui va changer de nom après et deviendra la Mad Pride, quoi. Alors pourquoi cette idée de Pride, de Pride Day était déjà présente, c'est que, donc c'est ce que dit Finkler, c'est que il y avait très très tôt un but de convergence avec les gays et les lesbiennes. À l'époque, on disait les gays et les lesbiennes, hein. Pour les bi et les trans, il aura fallu attendre un peu plus tard, quoi. Mais parce que beaucoup de gays et de lesbiennes étaient dans le suivant de la psychiatrie, quoi, de fait.
Oui, parce qu'effectivement, on pouvait être interné à l'époque contre son consentement parce qu'on était homosexuel.
Mais même que dans les gens qui sont fous, t'avais beaucoup de gays et de lesbiennes, quoi. C'est-à-dire que ça c'est quelque chose qui fait un peu peur aux gens, quoi, parce qu'après, les gens se mettent dans des rapports entre le fait d'être LGBT et le fait d'être fou, mais je pense que cette gêne qu'on peut avoir, elle s'atténue un peu quand on conçoit que tout ça, la maladie mentale est quelque chose d'ordre social également, quoi. Mm-hmm. Ce qu'on peut attribuer à d'autres enjeux, à des minorités politiques, qu'on n'accorde pas encore vraiment à la maladie mentale, vu que tout a été effacé, quoi. Mais que, à partir du moment qu'on soit à la folie comme quelque chose de social, voilà, on peut comprendre le fait qu'il y ait évidemment des connexions. Mais ce dont parle Finkler, c'est que les réponses négatives à ça sont aussi arrivées très tôt. C'est-à-dire que les gens autour de la Gay Pride, qui n'étaient pas du tout affiliés à l'antipsy, déjà, ils ne voulaient pas être associés aux fous, en fait.
Oui, parce que leur but, c'était de dire je suis gay, je suis lesbienne, je suis trans, et ce n'est pas une maladie mentale.
Voilà, et dans le fait de dire que ce n'est pas une maladie mentale, malheureusement, même inconsciemment, quoi. Mais de façon, de fait, c'est ça qui se passait, c'est qu'on suppose que la maladie mentale est quelque chose qui existe de manière évidente et que la psychiatrisation allait de soi, quoi.
Ok, et donc la stratégie, on va dire, du mouvement LGBT mainstream à travers les décennies de dire ce n'est pas une maladie mentale, en fait de dépathologiser les vies LGBTI, est-ce que ça permet du coup de prendre en compte les personnes qui sont à la fois folles et LGBTI finalement?
Bah, c'est tout le problème. C'est-à-dire que si on fait ce qu'on peut appeler une dépsychiatrisation partielle, quoi, parce que évidemment le but de l'antipsy, c'est la dépsychiatrisation totale, c'est-à-dire dépsychiatriser vraiment tout le monde, tous les gens concernés par la psychiatrie. Mm-hmm. Et donc comme le mouvement LGBTI vise à la dépsychiatrisation uniquement des LGBTI, quoi.
Mais déjà, on peut aussi dire que c'est pas totalement atteint aujourd'hui, ça.
D'une part, pour
transitionner, bon, voilà, il y a les histoires d'attestation de psychiatre, il y a beaucoup plus de risques aussi d'être psychiatrisé plus violemment quand on est LGBTI, quoi.
Bah, déjà, le fait que, ouais, qu'il y a des psychiatrisations, on peut dire que, enfin, des trans, parce qu'évidemment, pour les gays et lesbiennes, c'est encore un peu différent. Mais pour les trans, on peut estimer qu'elle est en cours, mais là, elle est pas actuelle du tout, quoi. Et surtout que le problème aussi, c'est que on pense qu'on va changer beaucoup de choses en changeant le DSM. Donc le DSM, c'est le manuel de l'association des psychiatres américains qui est censé être la référence pour les catégorisations. Des maladies mentales.
Donc pour les diagnostics.
La 5e édition. Oui. Pour les diagnostics. Et notamment, beaucoup d'enjeux, c'était de changer ce qui était relatif à la dysphorie de genre, par exemple. C'était, on va changer les catégories qui portent, les diagnostics qui portent sur la transidentité et ça changera des choses. Bah, en fait, ça ne change pas tant de choses que ça parce que, concrètement, les psychiatres français, le DSM, souvent, ils s'en fichent un peu. Hein. Ils peuvent s'y référer pour légitimer certaines choses, mais des fois, ils prennent une décision, mais le DSM n'a rien à voir, quoi. Enfin, c'est vraiment, des fois, selon leur bon vouloir, les décisions. C'est-à-dire qu'ils sont en situation où, ouais, ils peuvent exercer, selon quand même, vraiment une grosse part d'arbitraire, et que, je veux dire, croire qu'on va changer des choses en réformant le DSM, c'est un peu sourvoyé, hein. Vu que, déjà, ce dont on parlait, que chez les fous, il y a beaucoup de LGBTI pour des raisons sociales diverses, ça fait que si on dépsychiatrise que les LGBTI, on sera encore psychiatrisé de fait, à cause de la maladie mentale. Donc, si on fait une dépsychiatrisation partielle, ça va pas. L'influence en termes de psychiatrisation sera assez minime en fin de compte. Et surtout que ça s'aggrave un peu avec le temps, je pense, parce que. Maintenant, quand on parle de ces connexions qui existent, on nous reproche de faire un retour en arrière sur la dépsychiatrisation, de pas réclamer par le militantisme LGBTI. Mais, enfin, moi, je pense que un retour en arrière, c'est vite dit, quoi. Parce que je trouve qu'on a pas beaucoup avancé, quoi. Parce que une dépsychiatrisation partielle, c'est qu'est-ce qui se passe pour les LGBTI qui sont aussi fous alors que il y en a beaucoup, quoi. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont être psychiatrisés de fait, même si les psychiatres le diront pas, que c'est pour le fait d'être gay, lesbienne ou trans, quoi. Mais ça a forcément une importance, quoi qu'il arrive, quoi. Même si les psychiatres vont dire que ça sera pour de la schizophrénie ou pour de la dépression, pour de l'autisme ou quoi que ce soit d'autre.
Mais selon toi, qu'est-ce qui se passe en règle générale quand on est à la fois fou folle et LGBTI? Je veux dire, par exemple, en termes d'accès aux soins, de traitement, comment ça se passe en fait quand, par exemple, on est diagnostiqué schizo, bipolaire, bon, ou psychotique en règle générale et on veut transitionner. Et comment ça se passe du coup?
C'est compliqué parce que les psychiatres peuvent trouver des divers moyens de réaffilier les déviances par rapport à l'hétérosexualité et les déviances d'ordre de la transidentité, quoi. Ils peuvent toujours les rapporter à des choses qui relèveront du pathologique, quoi. Et comme voilà, et surtout si on a en même temps psychotique ou autiste, et ça varie tellement après d'un diagnostic à l'autre, quoi. Genre si on est dépressif, c'est encore un peu différent, mais est-ce que, et d'ailleurs dans cette hétérogénéité, je pense que pour les trans par exemple, il y a le découragement à la transition, mais des fois ça arrive aussi si on s'inscrit déjà dans une sorte d'ambiguïté de genre, qu'en gros on a déjà un peu commencé soi-même à faire les transitions, quoi, qu'on est dans un genre assez ambigu du point de vue des psychiatres, du moins ça arrive que même ils vont faire une sorte d'encouragement à la transition. Bah alors dans ce cas-là, pas n'importe quel type de transition, hein, une transition bien normée, un peu type SOFECT.
La SOFECT, Société Française d'études et de prise en charge de la transidentité, a été créée en 2010 et qui aujourd'hui s'appelle FPATH. En gros, c'est une institution, un rassemblement de médecins, de chercheurs, chercheuses, etc., qui s'implique dans les parcours de transition et qui se pose en expert de la transidentité en mettant un cadre et des conditions hyper normées au parcours de transition, par exemple.
Oui, en fait, le rôle des psychiatres, c'est d'étiqueter, c'est de tout bien ranger dans sa petite boîte normale, pas normale, hein, un peu comme droite-gauche, mais pour les psychiatres, c'est normal, pas normal, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'état de la lutte anti-psy et des liens aussi avec les luttes LGBTI en France aujourd'hui?
Alors, en France aujourd'hui, c'est à la fois déprimant et à la fois quelque chose d'encourageant, parce que, alors d'abord, c'est déprimant parce que on a l'impression de repartir comme c'était il y a 50 ans, quoi. En termes vraiment de discours politique sur la psychiatrisation, on retrouve très peu cette conception politique vraiment de l'institution psychiatrique et de la psychiatrisation. Maintenant, c'est conçu comme des évidences que ça existe. C'est des choses d'ailleurs qu'ont reproché les survivants de la psychiatrie, donc les vieux et les vieilles du mouvement, quoi. Qu'après, ils sont changés en mouvement d'usagers de la psychiatrie, donc voire radicaux. Tout au mieux en France, d'ailleurs, c'est ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on a des trucs d'usagers de la psychiatrie, quoi. Bah, après, les GEM, oui, c'est vrai que les GEM sont là-dedans, évidemment, c'est des choses pareilles pour les usagers, mais les GEM ont. Alors, les GEM sont. Encore une fois, elles sont très hétérogènes aussi, hein. Donc ça dépend lesquelles. Il y en a où c'est assez intéressant, il y en a où c'est comme des hôpitaux de jour, donc c'est pas très intéressant.
Les GEM sont des groupes d'entraide mutuelle ayant un statut associatif et ont été créés par la loi du 11 février 2005. Les GEM sont censés être portés par et pour les personnes concernées et permettent de créer des espaces où se retrouver, échanger et partager des activités. En réalité, c'est plutôt complexe, car les personnes qui réellement assurent la gestion des GEM sont des personnes valides, et les GEM bénéficient d'une subvention de l'État, ce qui limite la marge de manœuvre.
S'il n'y a pas cette conceptualisation politique, comme je disais tout à l'heure, hein, si on ne conçoit pas le soin psy comme quelque chose de politique, bon, il n'y a pas de vrai soin en réalité, quoi. Et c'est vrai que cette idée qu'être usager de la psychiatrie, elle a plusieurs effets, c'est-à-dire que ça enferme pas mal quand même dans une position simplement de témoignage. Mais quand vous parlez en tant qu'usager, on vous accorde pas cette place pour faire du discours politique, hein.
il n'y a aucune contestation de comment fonctionne le système, quoi. Un des buts, c'est refonder une MadPride. Parce que oui, il y a eu une MadPride en France qui n'existe plus. MadPride qui n'avait mais rien à voir avec, par exemple, la Pride historique de Toronto, ou c'est la MadPride française. Bah, je pense justement elle est assez représentative de ce que je disais. C'est-à-dire que c'était des soignants, des psys et des usagers. Et que, en termes de politique, la MadPride française, c'était rien du tout, quoi. C'était au mieux ce qu'on appelle lutter contre les préjugés. Politiquement, ça vaut pas grand-chose en réalité, quoi. Si c'est les psychiatres et les soignants qui, notamment, ont une grande importance, s'ils gèrent pas la chose déjà, mais s'ils ont une grande importance dans la chose, déjà, on peut dire adieu à des revendications politiques vraiment, quoi. C'est pour ça que l'antipsy, autogestionnaire, voulait vraiment se séparer, mais absolument de ça, quoi. Il faudrait fonder une MadPride, c'est un peu des buts. Bah, on a du mal, apparemment, de ce que je sais, on a un peu de mal à le faire. Sur le terrain, c'est compliqué. On n'a pas grand-chose sur le terrain. Là, après, ça, c'est le côté déprimant. Après, le côté encourageant, c'est on a clairement une redécouverte de l'antipsy, et notamment cette antipsy des survivants de la psychiatrie, donc hors de France, quoi, qu'on connaissait pas bien avant. Il y a clairement une montée de tout ça, une redécouverte, une montée de tout ça sur les réseaux sociaux, et au point qu'il y a même des gens qui disent, qui parlent même un peu déjà, qu'il y a une nouvelle vague de l'antipsy en France, comme il y a eu des vagues du féminisme, voilà, hein, il y aura peut-être une deuxième vague de l'antipsy. Mais par contre, sur le terrain, c'est encore compliqué, quoi. Voilà, il y a des groupes locaux de père et danse. Déjà qu'ils sont pas tous antipsy, de toute façon. C'est-à-dire qu'il y a des groupes locaux de père et danse, mais ils veulent pas vraiment s'inscrire dans un siège politique. Il y a ce qu'il reste des scissions du GIA, parce qu'il y a des restes. Je pense notamment au CRPA. C'est un des rejetons, hein, du GIA.
Le CRPA, Cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie, est une association militante de philosophie antipsychiatrique fondée en 2010 après une scission du groupe en formation asile, GIA. L'association est en majorité composée de personnes ayant connu la psychiatrie. Elle inclut des parents et amis de personnes psychiatrisées. C'est pas clair s'il y a des soignants, soignantes de la psychiatrie ou pas. On n'a pas bien compris.
Et justement, on voit le CRPA aujourd'hui, déjà que le GIA, c'était pas aussi radical que d'autres courants. Bon, le CRPA aujourd'hui, c'est vraiment bien réformiste sur un plan légal, voilà, quoi. On lutte avec des avocats, quoi. Et ça va pas trop plus loin. Et on fait des alliances avec les psychanalystes, voilà.
Ton objectif qui serait de refonder une MadPride en France, ça me fait penser à deux choses qui sont passées récemment. Il y a quelques années en arrière, il y a eu une marche dite citoyenne à Paris, je crois, qui a été organisée par l'association Comme des Fous, entre autres, mais je crois aussi qu'il y avait des associations de proches, mais j'en suis pas sûre. Et donc qui était... je ne sais pas si on peut dire politisé, mais qui ressemblait un peu à une étincelle qui pouvait faire partir quelque chose. Et le mois dernier, ou ce mois-ci même, en juin, à la Pride de Lyon, il y a eu le premier char en non-mixité Andy, avec une bannière anti-psy bien affichée. Donc voilà, et d'ailleurs qui était organisée par l'association La Marginale, que je vous invite à suivre. Et du coup, ben voilà, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as appris et tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. C'était très riche. Et si tu veux terminer sur une note d'espoir pour le futur, je te laisse faire.
Bah, justement, quelque chose qui m'a réjoui, c'est que, outre ces signes qu'on a vus dans la Pride de Lyon, c'était pas la seule Pride où il y avait quelques petits discours anti-psy par-ci par-là. Hein. Ça s'est fait dans d'autres Prides aussi. Hein. Donc ça bouge un petit peu, quoi. Mais c'est vrai qu'on en vient à aller dans la... Finalement, c'est drôle, la convergence entre fous et LGBT, on s'en parlait tout à l'heure, peut-être que par la force des choses, ça va se faire, mais un peu dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est les fous qui vont devoir aller un peu dans les marches d'LGBTI pour se faire entendre un peu, faute d'organisation de notre part, quoi. Mais organisation, c'est aussi, on est sous beaucoup de contraintes, quoi.
Voilà, et donc c'était l'émission. Interlope, avec pour thème Mad Freaks Pride, c'est Camille, donc, qui a été interviewée par les animatrices de cette émission de Radio Canu, qui était diffusée sur cette radio lyonnaise en janvier 2022. Et ainsi se termine l'entonnoir. Nous vous disons au revoir et à la semaine prochaine. Eh bien, pour continuer les programmes de Radio Libertaire, eh bien, c'est bien évidemment là une émission de Un rayon de soleil, donc une émission de Radio Libertaire Méditerranée. Bonne écoute.
Combien de personnes